Puis moi aussi, je peux vous dire, là, j'ai 4 enfants, puis je fais partie, tu sais. Et parfois, on serait tenté de leur dire, hein, « Bien, je te l'avais dit! » Avez-vous déjà été tenté? C'est pas toujours la bonne chose à faire, par exemple. Hein? Des fois, c'est tentant. Est-ce que vous pensez que Dieu, parfois, il vit les mêmes des situations semblables avec nous? Hein? Il nous donne des conseils, il nous donne des avertissements, il cherche à nous enseigner, il désire des bonnes choses pour nous, il y a des bons projets pour nous, et nous, on ne l'écoute pas. Pensez-vous que ça arrive? Je pense que oui, hein, ça arrive. T'sais. Et malheureusement, on se cause bien des tourments, des malheurs que Dieu voudrait nous éviter. Vous savez, la Bible nous dit clairement que Dieu est bon, que Dieu est saint, comme on vient de chanter, qu'il est amour et qu'il nous aime d'un amour éternel. La Bible est très claire sur ça. Et c'est lui qui nous a donné la vie. Et Dieu a des projets. Il y a des projets de bonheur et de paix, un avenir rempli d'espérance pour chacun de nous. Vraiment, Dieu, c'est un bon Père céleste. Pouvez-vous dire ça avec moi? Dieu, c'est un bon Père céleste. Amen! Parce que c'est vrai. La Bible dit ceci, et dans Jérémie, vous connaissez probablement ce verset-là, hein, qui dit, c'est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et on pourrait dire, vous savez, que ça résume qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous, ses pensées pour nous. Et juste pour être clair ici, vous savez, ça ne veut pas dire que notre vie va toujours être facile. Mais ça veut dire, par exemple, qu'à chaque fois que nous allons accepter de croire dans le Seigneur, que nous allons mettre notre confiance en lui, que nous allons accepter sa volonté, on va toujours être gagnant. Amen. Ça va toujours être bon pour nous parce que Dieu, il connaît mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous et il veut notre bien. Vous savez, la Bible nous dit aussi que Dieu, il nous a créés libres de choisir et de lui obéir ou non. Tiens, Dieu, il nous a choisis libres de l'aimer ou de le respecter ou non parce qu'en fait, pour avoir l'amour, il faut être libre. Dieu nous a créés libres pour qu'on choisisse de l'aimer. Et on voit ceci, en fait, depuis le début de la création dans le jardin d'Éden. Hein? Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait pourvus pour tous leurs besoins. Il avait seulement demandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de lui faire confiance, de lui obéir. Puis vraiment, c'était pour leur bien, c'était pour les protéger. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Ils ont désobéi, et puis les problèmes ont commencé. Le péché est entré dans le monde. Et oui, les problèmes ont commencé. Heureusement que Dieu avait prévu une solution en Jésus-Christ qui nous donne espoir aujourd'hui, qu'on peut être réconcilié avec Dieu, qu'on peut être sauvé, avoir la vie avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est la même chose. Lorsque nous choisissons de ne pas obéir à Dieu, à Jésus, on attire toujours dans notre vie des problèmes, des difficultés que Dieu voudrait bien nous éviter. Mais lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, qu'on se dit de croire en lui, mettre notre confiance en lui, les projets de Dieu, que Dieu a pour nous, ils peuvent s'accomplir. C'est des projets de paix, un avenir rempli d'espérance. Vous êtes avec moi ce matin? OK. Le titre du message, ça s'intitule comme si « N'annulez pas le dessein de Dieu, soyez baptisés ». Ce matin, on va avoir quelques baptêmes d'eau. Hein? C'est toujours une joie de célébrer lorsque les gens sont baptisés dans l'eau. Et ce matin, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Boys, les deux jumelles, ils sont quasiment cachés en arrière, mais je vous vois là, je vous vois. Hein? Vous savez, et je crois, vous savez, que nous avons une leçon à apprendre de ces jeunes ce matin. On a une bonne leçon, vous savez. Et parfois, c'est les parents qui enseignent quelque chose hein, aux enfants. Mais je crois que ce matin, là, les jeunes qui ont choisi de se faire baptiser, c'est vous qui nous enseignez une leçon. Êtes-vous content que vous pouvez nous enseigner quelque chose ce matin? Je pense que oui. Mais j'aimerais de regarder à l'histoire de Jean-Baptiste un peu. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé deux de ses disciples demander à Jésus s'il était vraiment le Messie promis. Et à travers cette histoire-là, je veux vraiment, je veux qu'on puisse saisir l'importance de ne pas annuler le dessein de Dieu sur notre vie. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans Luc, le chapitre 7. Et vous pouvez suivre dans votre Bible ou vous pouvez suivre sur l'écran si vous avez des bons yeux. Ça prend vraiment des bons yeux, là. Mais on va lire dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 18. Et ça dit ceci. Ça dit, « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivé auprès de Jésus et dire, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et à l'heure même, ça dit, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue, à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncé aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses parler à chacun de nos cœurs ce matin, Seigneur. Je prie que les gens qui sont ici, Seigneur, n'entendent pas seulement ma voix, mais ta voix, la voix de ton esprit qui parle à leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître, Seigneur, te connaître davantage, connaître, Seigneur, les projets que tu as pour leur vie, l'amour que tu as pour eux, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, Dieu, mettre leur confiance en toi, afin que les desseins que tu as de préparer pour eux s'accomplissent dans leur vie. C'est ma prière, Seigneur, je te demande ces choses, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais voir avec vous ce matin dans ce message, c'est ceci. C'est que Dieu a un dessein de préparer pour notre vie. Dieu a un plan de préparer pour notre vie. Ici, vous savez, on vient de lire un peu... un épisode dans la vie de Jean-Baptiste. Hein? Les projets de Dieu pour Jean-Baptiste, qui est né de Zacharie et d'Élisabeth, dans leur âge avancé, vous savez, c'était qu'il soit le précurseur du Messie pour préparer sa venue. Hein? Jean-Baptiste était appelé à être un messager pour préparer le chemin du Seigneur. La Bible dit que c'était un prophète, et même c'était plus qu'un prophète. Hein? Et on voit un petit peu, lorsqu'on lit les évangiles dans la vie de Jean-Baptiste, on voit ceci dans Matthieu 3, ça nous dit un peu qu'est-ce qu'il a fait. Il a répondu au dessein de Dieu sur sa vie. Et savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie, quelque chose de préparé pour vous? Moi, je suis ici ce matin, je pense que je suis dans le plan de Dieu, c'est ça. Mais Dieu a préparé quelque chose pour chacun de nous. Il veut se glorifier, il veut nous utiliser pour sa gloire. Ici, Jean-Baptiste, ça nous dit, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Hein? Ici, Jean-Baptiste, son appel, on pourrait dire, c'était de préparer la venue du Seigneur. C'était ça, le dessein de Dieu pour sa vie. Et son message, le message de Jean-Baptiste, c'était, on pourrait dire, un message de repentance, hein? De retour à Dieu. Il prêchait que les gens, ils devaient revenir à Dieu. Les gens devaient reconnaître leurs péchés dans leur vie. Ils devaient reconnaître qu'ils s'étaient éloignés de Dieu et qu'ils devaient revenir à Dieu afin que les desseins de Dieu, les plans de Dieu, puissent se réaliser dans leur vie. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Et on voit qu'il y a plusieurs qui ont répondu à cet appel-là. à cet appel-là de revenir et ils ont accepté de se faire baptiser. On lit ceci un petit peu plus loin dans Matthieu 3, 4 à 6. Ça dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous savez, quand j'ai eu le privilège un jour de baptiser des gens dans le Jourdain, en Israël, à peu près une douzaine de personnes. Je peux vous dire, c'était vraiment une belle expérience. C'était vraiment... Ça, c'était juste une parenthèse. Okay? Mais ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à cet appel-là. Ils se sont repentis. Ils ont accepté de se faire baptiser pour démontrer leur foi, pour démontrer qu'ils étaient sincères, qu'ils s'étaient vraiment repentis. Et vous savez, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici que vous vous êtes fait baptiser. Est-ce que vous vous rappelez la journée de votre baptême? Il y en a, ça fait pas tellement longtemps, là. Moi, je me souviens, c'était en 1984. J'avais 23 ans. J'avais 23 ans, puis c'était dans le nord du Québec, dans une église. L'eau était froide, je vous le dis. J'ai encore des frissons. mais c'est à 23 ans, vous savez, à 23 ans que finalement, j'ai pu comprendre, j'ai pu réaliser que j'étais un pécheur, que j'avais besoin d'être pardonné par Dieu. Je lui ai demandé pardon, je me suis repenti, j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai accepté comme mon sauveur. Et c'est à ce moment-là que, oui, on a décidé, on va se faire baptiser pour confesser notre foi. Et c'est la volonté de Dieu qu'un jour, vous savez, lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, que nous choisissons de le confesser par le baptême. Aujourd'hui, vous savez, le message et l'importance, c'est ça que je veux qu'on peut saisir aussi, c'est que le message de la repentance et de la foi, vous savez, il n'a pas changé aujourd'hui. En 2026, c'est la même chose. La foi et la repentance doivent précéder le baptême d'eau. Sans repentance et sans la foi en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, vous savez, le baptême ne nous sert à rien. On n'est pas sauvé parce qu'on se fait baptiser. On se fait baptiser parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Le baptême, c'est une démonstration de notre foi. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et c'est la raison aussi pourquoi on ne baptise pas des bébés. Parce qu'on les consacre, on les présente au Seigneur. Amen. Mais lorsqu'un enfant a un certain âge qui est capable de croire et de confesser Jésus-Christ, de se repentir, de se recevoir dans leur vie, à ce moment-là, il peut être baptisé. Vous êtes avec moi? Amen. Et on voit ceci, vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché son premier sermon, puis que les gens avaient le cœur vivement touché, ça nous dit, puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? OK, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? T'sais? Et Pierre leur a répondu ceci, Il s'est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Et ça veut dire même jusqu'à Edmundston. Amen. Puis j'aime quand ça dit pour les enfants, pour vos enfants, c'est pour nos enfants aussi. Dieu veut qu'on transmette notre foi, qu'ils puissent connaître eux autres aussi la richesse de la grâce de Dieu. Vous savez, la repentance et la foi dans notre cœur doit précéder le baptême d'eau parce que c'est là que le miracle de la nouvelle naissance se produit dans notre cœur. C'est là qu'on est né de nouveau, qu'on devient une nouvelle créature. Et pour que les projets de Dieu, les desseins de Dieu dans notre vie se réalisent, vous savez, dans notre vie, ça commence avec la repentance et ça commence avec la foi en Jésus. Et ensuite, ça se poursuit par l'obéissance. Et le baptême d'eau, ça fait partie de l'obéissance. Amen. Et c'est là que nous embarquons dans, on pourrait dire, le sentier, le chemin que Dieu a tracé pour nous dans les desseins qu'il y a pour nous. Amen. Jean-Baptiste marchait dans le dessein de Dieu et Dieu aussi nous appelle à marcher dans son dessein. Il y a des projets pour nous et ça commence avec la foi, la repentance et l'obéissance. Et il y a plusieurs d'entre vous ici, c'est l'obéissance. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. C'est que notre foi est souvent éprouvée dans le dessein de Dieu. Vous savez, dans qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? Parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vous avez-vous déjà posé des questions dans votre vie chrétienne? Vous pensiez que ça allait aller dans une direction, puis oups! C'est pas tout à fait comme je l'avais envisagé. Hein? Bien, savez-vous que si vous avez déjà pensé comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Parce que même Jean-Baptiste, il a déjà pensé comme ça. On lit ceci dans le verset, dans Luc, le 7 au verset 19. Hein. Et ici, c'est Jean-Baptiste. Il dit, il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Pouvez-vous croire, c'est Jean-Baptiste, là? C'est Jean-Baptiste, vous savez. Ça. Et le contexte ici, là, pour qu'on comprenne, là, tu sais, c'est que Jean-Baptiste, il avait été mis en prison. Il avait été mis en prison, tu sais, puis là, je pense pas qu'il s'attendait d'aller en prison, lui-là, là. Hein? Il avait annoncé que Jésus, c'était le Messie, l'agneau de Dieu qui venait, et le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament, vous savez, c'était un Messie qui allait venir libérer les captifs, hein? Qui allait apporter la prospérité. Hein? Puis là, Jean-Baptiste, il est venu libérer les captifs, puis moi, je suis pris en prison aussi. Vous savez, parfois, là, les choses ne vont pas exactement comme on avait pensé. Et quand les choses sont difficiles dans notre vie, c'est beaucoup plus facile de douter de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de les bons projets de Dieu pour nous. Notre foi est mise à l'épreuve. Hein? J'ai une bonne nouvelle pour vous, puis j'ai une mauvaise nouvelle. Lesquelles que vous voulez. OK. Mais en fait, c'est deux bonnes nouvelles, on pourrait dire, là, si on le prend sur le bon côté. C'est que notre foi est toujours éprouvée. Elle sera toujours éprouvée. Parce que les plans de Dieu, les projets de Dieu dépassent de loin notre compréhension. Puis Dieu, là, il va faire au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Amen. Mais des fois, on ne comprendra pas. Okay? Ça, c'était-tu la mauvaise ou la bonne nouvelle, ça? Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu ne change pas. Ses promesses, ils sont oui et amen en Jésus-Christ. Sa bonté pour nous, son amour pour nous ne change pas. On peut lui faire pleinement confiance. Amen. Mais dans les temps difficiles, vous savez, c'est facile de douter puis de se poser des questions. Vous savez, les desseins de Dieu pour notre vie sont souvent très différents de ce que nous envisageons pour notre vie. Et parfois, vous savez, nous avons une bonne idée. Des fois, on a une bonne idée, là, tu sais, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu sais, les choses vont, ça va aller comme ça, tu sais. Et parfois, vous savez, ça ne va vraiment pas comme qu'on pensait. Et ça peut nous amener un moment de doute et de confusion dans notre vie chrétienne. Tu sais? Puis moi, je me dis, vous savez, si Jean-Baptiste, wow! Si Jean-Baptiste avait de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui arrivait dans sa vie, je suis prêt d'accepter que ça peut m'arriver, moi aussi, d'être confus un peu, puis d'avoir certains doutes. Je suis prêt d'accepter ça sans me condamner, puis m'abaisser parce que je suis mêlé, Seigneur, puis j'ai des doutes. Et les jeunes, hein, Les jeunes, là, hein, je voudrais, si vous avez à un moment donné de la difficulté à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, vous avez peut-être des doutes dans votre vie ou que vous vous demandez, hein? Billy, ça peut arriver, hein? Oh oui, hein? Okay. Je vous encourage, les jeunes, puis pas juste les jeunes, les moins jeunes aussi, de faire exactement comme Jean-Baptiste a fait. Savez-vous qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait lorsqu'il était confus et qu'il avait des doutes? Il a envoyé deux de ses disciples voir Jésus pour lui demander des questions. Et Jésus y a répondu. Jésus l'a rencontré où ce qu'il avait besoin d'être répondu. On lit ceci, je pense. J'ai le prochain verset ici. OK. On lit ceci dans Luc 7, 21-22. Ça dit, à l'heure même, hein, les disciples sont venus, ont posé la question à Jésus. Ça dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous savez, toutes ces choses-là, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament que c'est ce que le Messie allait faire. Mais ici, vous savez, le point que je veux qu'on saisisse pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus, là, il n'était pas en colère contre Jean. Tu sais, il n'a pas dit, ben voyons donc, Jean. Tu sais, il ne lui a pas fait des reproches à cause de ses doutes, à cause de, sa confusion. Il l'a rassuré, vous savez. Puis ça, c'est rassurant pour nous aussi, de savoir que Jésus nous condamne pas si on a des doutes ou de la difficulté à comprendre. Vous êtes avec moi? Et je dis ceci, ne soyons pas trop rapides à reprendre un frère ou une sœur qui traverse des moments difficiles et qui vit des doutes puis de la confusion pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ne soyons pas trop vite à le condamner. Cherchons plutôt à l'encourager, à l'aider comme Jésus l'a fait. Amen, comme Jésus l'a fait. Donc, Jésus, il répond finalement à ses deux disciples-là, il dit, allez voir Jean, puis dites-lui ce que vous voyez, ce que vous entendez. Il dit, racontez-lui des faits concrets que vous êtes en train de voir. Savez-vous que Dieu, là, il nous invite à mettre notre confiance en lui et... Non, là, je suis pas en train de vous dire une fausse doctrine, là, juste pour vous rassurer ici, non? Mais non seulement sur ces paroles, mais aussi sur des faits concrets dans notre vie et qui se sont réalisés dans l'histoire humaine, vous savez, des faits qui prouvent la véracité de la parole de Dieu, comme que Jésus a fait avec Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? Vous savez, le christianisme, il est basé là, sur des faits concrets qui se sont réalisés dans l'histoire humaine, des faits vérifiables, contrairement, on pourrait dire, à toutes les autres croyances spirituelles des religions dans le monde qui sont basées seulement sur des paroles ou sur certaines personnes ont dit qu'il y avait eu des révélations puis des choses comme ça sans avoir de preuves à l'appui. Mais je peux vous dire que la Bible, il y a des preuves à l'appui concrets. Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Vous savez, historiquement, même ceux qui ne croient pas dans la Bible, qui font des recherches historiques, c'est exactement comme que la Bible dit. C'est concret, c'est fiable, vous savez. Et les miracles, vous savez, les miracles de Jésus ont été racontés, vous savez, même par des historiens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est un événement, vous savez, qui ne peut pas être mieux compris que par la réalisation authentique de cette résurrection. De la résurrection. Et il y a des gens qui ont essayé de prouver hein, que ce n'était pas vrai, puis en essayant de le prouver, le contraire, ils ont venu à la foi et ont dit non, la seule chose plausible, vraiment, c'est qu'il est vraiment ressuscité. Notre foi est basée sur des faits concrets. Mais quand je vous dis que pas seulement sur la parole, Mais les faits confirment la parole et la parole confirme que c'est vraiment Dieu. Vous êtes avec moi? Fait que Dieu, il nous parle par sa parole, il nous parle par des œuvres aussi qu'il a accomplies. Notre foi est fondée sur la réalité, vous savez. Et lorsque Dieu nous appelle à croire en lui, dans les desseins qu'il a pour notre vie, vous savez, il nous appelle à lui faire pleinement confiance. Et si parfois, vous savez, que ça nous arrive des fois d'avoir des doutes ou de se demander un peu qu'est-ce qui se passe dans notre vie, si nous cherchons vraiment la face de Dieu, puis que notre cœur est vraiment ouvert au Seigneur, bien, le Seigneur, le Saint-Esprit, là, qu'est-ce qu'il va faire? Là? Il va nous rappeler des choses qu'il a déjà faites dans notre vie pour confirmer sa fidélité dans notre vie. Un peu comme qu'il disait à Jean-Baptiste, tu sais, regarde, regarde qu'est-ce qui se passe. Et Dieu va nous dire, regarde qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Et c'est important d'être ouvert, de regarder en arrière. Est-ce que Dieu a fait des miracles dans votre vie? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il est capable d'en faire encore? Amen. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. C'est que cherchons la face de Dieu et Dieu va nous ramener. Amen. Et lorsque nous avons besoin, vous savez, de... Une autre chose aussi, lorsque nous avons besoin de soutien dans notre foi, d'être affermis dans notre foi, qu'on lutte contre des doutes ou de la confusion, moi, de vous encourager, de ne les cachez pas au Seigneur. Ne les niez pas non plus. C'est juste, non, non, tu sais. Mais apportez-les au Seigneur. Comme Jean a fait honnêtement et simplement lorsqu'il était, il a été à Jésus. Apportez-les au Seigneur. Et le Seigneur va vous rencontrer, le Seigneur va vous répondre, il va vous aider dans votre foi. Il ne vous fera pas de reproches parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes confus, mais plutôt il va vous aider à regarder à des choses pour vous éclairer, pour vous fortifier, afin que vous puissiez continuer d'aller de l'avant avec lui dans les desseins qu'il a préparés pour vous. Amen. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, vous savez. Et vraiment, on pourrait dire que c'est, moi je dirais que c'est le cœur du message ce matin que j'avais vraiment sur mon cœur de vous partager, c'est ceci, ne rendons pas nul le dessein de Dieu à notre égard. Dans le verset 29 et 30, on lit ceci, hein? Ça dit, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. » En se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais ça dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Wow! Ici, vous savez, ça nous dit, oui, il y a plusieurs des publicains, hein, des collecteurs de taxes. Combien de personnes vous aimez les collecteurs de taxes? Hein? Les collecteurs d'impôts. Hein? Plusieurs des voleurs, hein? Des gens de mauvaise vie, tu sais, que ça nous dit dans la Bible. Ils se sont repentis lorsqu'ils ont entendu le message de Jean. Oui, ils se sont repentis, vraiment. Ils ont cru. Ils se sont fait baptiser. Hein? Comme que, il y en a plusieurs qui se sont fait baptiser. Hein? Dans ce temps-là, ils ont embrassé, on pourrait dire, embarqué sur le sentier des projets de Dieu pour leur vie. Amen. Ils ont reçu le pardon, ils ont reçu la grâce, ils ont reçu la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, on pourrait dire, c'est la belle partie. Et la deuxième partie, dans le verset 30, on dit, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est triste. Vous savez? Des pharisiens, les docteurs de la loi, des personnes très intelligentes, très éduquées, des personnes avec un statut social, on pourrait dire, très élevé, distingué dans la société à cette époque-là, vous savez. Ils ont refusé de croire. Ils ont refusé de croire dans le message de Jean-Baptiste et ils ont refusé de croire dans le message de Jésus aussi. On sait qu'il y en a qui ont cru par la suite. Merci Seigneur. T'sais. Ils ont refusé de se repentir. Wow. Ils ont refusé de dire, non, on ne se fait pas baptiser par Jean, nous autres. Hmm? Vous savez, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser, de se soumettre à la volonté de Dieu, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, les plans que Dieu avait pour leur vie. Les projets de Dieu ne se sont pas réalisés. Par leur propre décision, par leur propre endurcissement, à cause de leur orgueil, par leur propre choix, ils se sont privés des bénédictions que Dieu avait de préparer pour leur vie. Ils se sont privés du pardon de Dieu. Ils se sont privés de la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Ils se sont privés de la paix de Dieu, de connaître la joie, de connaître les bontés, la fidélité de Dieu. Ça, écoutez, c'est vraiment triste. Est-ce que ça vous attriste? Ça n'a pas l'air de vous attrister trop tôt. Non, je sais que ça. Vous savez, ils n'ont pas voulu écouter. C'est triste, en fait, lorsque quelqu'un, on leur partage la bonne nouvelle, hein, puis qu'il ne veut pas croire en Jésus-Christ. Tu sais, Dieu t'offre un cadeau merveilleux, puis tu ne veux pas le recevoir. C'est triste. Ah, il y en a un qui est triste, hein, tu vois, à quelque part. Wow! Il est vraiment triste. Hein? Mais voyez-vous, ils n'ont pas voulu écouter à Jean-Baptiste, premièrement, qui leur annonçait un message de repentance. C'est « Vous devez vous repentir. » Ils n'ont pas voulu, même ils disaient un petit peu plus loin dans le texte, ça dit, ils ont dit « Il y a un démon. » Jean-Baptiste, il y a un démon. T'sais. Jean-Baptiste est venu, il était très, on pourrait dire, il est très axé sur l'ascétisme dans un sens, comme il mangeait, il jeûnait, puis il mangeait, il était très, mais son message était vraiment de Dieu. T'sais. Puis on dit, il y a un démon. Jésus, lui, il est venu, ils n'ont pas voulu écouter à Jésus non plus. Puis Jésus, oui, prêchait la repentance, mais il prêchait aussi l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour les pécheurs. Et on dit, lui, c'est un buveur, puis c'est un mangeur, tu sais. Bon, ça fait que là, hein, il n'était pas content avec Jean-Baptiste, puis il n'était pas content avec Jésus. C'est ça que le texte nous dit. Il y avait toujours une excuse. Hein? Le problème, ce n'était pas avec Jean-Baptiste, puis le problème, ce n'était pas avec Jésus. Le problème, c'était avec leur attitude dans leur cœur, qui avait besoin de marcher sur leur orgueil. Puis d'accepter le message que Dieu. Et parce qu'ils ont refusé de croire, ils ont rendu nuls les projets que Dieu désirait accomplir à leur égard. Et lorsque nous refusons de croire en Jésus-Christ et de se soumettre à la volonté de Dieu, nous rendons nuls à notre égard le dessein de Dieu, les projets que Dieu a pour nous. Vous savez, la Bible nous dit ceci, hein, dans 2 Pierre 3:9, ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Un peu plus loin, l'apôtre Paul a écrit ceci. Il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Amen. Le cœur de Dieu, vous savez, c'est vraiment, c'est de nous donner la vie. Et c'est pour ça, vous savez. Et nous avons le choix de l'accepter ou de le recevoir. Mais est-ce que je peux vous encourager ce matin? Recevez-le. Recevez-le pleinement, vous le regretterez jamais. Ce que Dieu désire pour vous, c'est bon pour vous. C'est ce qu'il y a de meilleur. Puis je disais, c'est ce qu'il y a de meilleur, pas juste ici-bas sur la terre. C'est pas mal meilleur l'autre côté aussi. Amen. Pour toute l'éternité. Jésus a payé le prix à la croix. pour vos péchés, pour nos péchés. Si nous acceptons de croire qu'il a payé pour nous, vous savez, la Bible nous dit qu'il nous lave plus blanc que la neige. C'est beau de la neige, hein? Moi, j'aime ça, la neige. Hein? J'en apporte quasiment partout ce que je vois. Hein? Mais le Seigneur nous lave plus plein que la neige. On peut être réconcilié avec lui. Puis un jour, lorsqu'on va quitter ce monde, on va simplement entrer dans sa gloire pour toute l'éternité. Mais si nous refusons de croire en Jésus-Christ, vous savez, comme nous voyons ici, nous allons rendre nul à notre égard les désirs de Dieu pour nous. Et je termine ce matin simplement en disant, ne rendez pas nul le dessein de Dieu. Soyez baptisés. Un jour ou l'autre, vous savez, si nous... Un jour ou l'autre dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a confessé sa foi, Dieu nous appelle à être baptisés. Je ne vous connais pas tous si ce matin, mais je sais une chose, par exemple, c'est que si vous avez reçu Christ dans votre vie comme votre sauveur, c'est la volonté de Dieu qu'un jour, vous allez le confesser publiquement. Devant Dieu et devant les hommes, que vous avez cru en Jésus-Christ, qu'il est votre sauveur. C'est la volonté de Dieu que vous soyez baptisés. Le Seigneur a des projets pour notre vie. Amen. Et on parle de la repentance, on parle de la foi et de l'obéissance, puis le baptême d'eau, ça fait partie de l'obéissance. Et je vous pose la question ce matin, est-ce que vous allez accepter le dessein de Dieu à votre égard, dans votre vie, en lui demandant pardon de vos péchés et en recevant son pardon, en acceptant de croire que Jésus, il est votre sauveur personnel? Est-ce que vous allez prendre cette décision-là? Vous savez, moi, ça peut se faire publiquement, ça peut se faire tout seul. Moi, je l'ai fait tout seul. Hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai même fait ça en pelletant de la neige. Hein? Toujours de la neige hein, dans ma vie. Ma vie a complètement changé. Mon cœur a changé, mon désir pour Dieu a changé. Puis je remercie le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Et je vous pose la question, est-ce que vous allez accepter un jour aussi de vous faire baptiser dans l'eau, hein, en confessant publiquement votre foi? Dans le texte, vous savez, ça nous dit dans le verset 35, en fait, ça dit, « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Dans l'histoire, comme tu sais. Jésus dit, « La sagesse a été justifiée par les enfants qui ont cru dans le baptême, qui se sont fait baptiser, qui ont cru en Jean-Baptiste, qui ont cru en Jésus. » Et savez-vous, quand que je lis ce passage-là, ça me fait penser à quelque chose. Nous disons, on dit souvent, vous avez entendu ça, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Avez-vous déjà entendu ça? Il y a beaucoup de vérité dans ça. Des fois, je ne suis pas sûr, là, mais on pourrait dire ce matin, vous savez, quand que je vois les jeunes se faire baptiser là, dans l'eau ce matin, moi je dis, la sagesse sort de la bouche de ces jeunes qui ont accepté de croire en Jésus puis de croire leur foi par les eaux du baptême. Vous êtes avec moi? Et jeunes, on a une leçon à apprendre de vous ce matin. Parce que ce que vous faites, vous nous enseignez que c'est la sagesse de Dieu de confesser notre foi puis de confesser publiquement par les eaux du baptême. Amen. On va prier à ce temps-ci. Seigneur, merci Seigneur. Oui, merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes comme on est, Seigneur. Merci. Tu nous appelles à venir à toi comme on est, Seigneur. Merci que sur la croix, Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur, pour tous nos péchés, Seigneur, tous nos manquements, Seigneur. Et ce que tu nous demandes, Seigneur, oui, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs devant toi. Ce que tu nous demandes, c'est de mettre notre confiance en toi, Seigneur Jésus, pour le pardon de nos péchés. C'est ce que tu nous demandes. Et tu nous promets, Seigneur, que si nous Nous croyons en toi, Seigneur. Que, Seigneur, que tu vas nous pardonner, nous purifier de toute iniquité, que tu vas nous donner la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, ce don gratuit en Jésus-Christ que tu nous offres de ton salut. Et je prie, Seigneur, ce matin, dans ce lieu, que toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, puissent recevoir cette grâce dans leur vie, Seigneur, puissent te recevoir comme leur sauveur, afin que ton dessein, ton désir pour leur vie s'accomplisse, Seigneur. Oui, ici-bas et pour toute l'éternité, dans ta gloire, dans la vie éternelle. C'est ma prière, Seigneur. Et je prie que tu nous aides aussi, Seigneur. Seigneur, lorsque nous vivons des moments où on se demande, Seigneur, des moments de doute ou de confusion, Seigneur, nous avions envisagé certains plans pour notre vie, Seigneur, qui ne se réalisent pas exactement, Seigneur, comme que nous l'avions planifié. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à faire comme Jean-Baptiste, Seigneur, Dieu a fait, de se tourner vers toi, Seigneur, et d'exposer honnêtement, simplement nos doutes avec un cœur ouvert pour recevoir, Seigneur, ta parole qui va nous fortifier, Seigneur, qui va affermir notre foi, qui va nous donner la paix, Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence, même dans les épreuves que nous vivons, Seigneur, qui va nous rappeler ta bonté, ta fidélité, ta grandeur et ta puissance, Seigneur, dans notre vie. Je prie que tu nous aides, que tu aides mes frères et mes sœurs ici, Seigneur. C'est ma prière ce matin, c'est notre prière. Et je te remercie pour les jeunes qui vont se faire baptiser ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour Mathias, pour Élie, pour Maud, Seigneur. Et pas juste moi qui prie, mais nous prions tous ensemble comme une famille, Seigneur, pour eux. Seigneur, que tu puisses, que ce moment, Seigneur Dieu, soit gravé dans leur cœur, un moment où ils vont ressentir ta présence, ton amour, ton approbation, alors qu'ils choisissent, Seigneur, de marcher dans l'obéissance, Seigneur, en se faisant baptiser dans l'eau. Bénis-les, garde-les, afin que ta volonté, Seigneur, pour toute leur vie s'accomplisse. Les desseins que tu as de préparer pour eux s'accomplissent, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Et continue de nous utiliser pour partager cette bonne nouvelle autour de nous, dans les jeunes, puis dans les moins jeunes aussi, Seigneur. Et on te remercie, on te donne toute la gloire, ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen.